samedi 1er avril.
De 13h30 à 15h30.
La radio des intercultes.
Sur Transistor.
Merci beaucoup Gaëlle pour cet édito scientifique avec parapluie, comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs, car la pluie commence à tomber sur notre petit plateau en extérieur. Mais malgré tout, nous sommes toujours en place et nous continuons, toujours avec 3 minutes de retard d'ailleurs, et nous nous en excusons, nous continuons avec vous, Marie et Raph, pour votre journal de la culture. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Les Baudelaire, les Ravel, les Berlioz, les Maupassant, les Renoir et les Rembrandt qui survivent malgré le temps. Vive les Céline, les Zola, les Saint-Ex et les Degas, les Pascal et les Goya, dont on ne se lasse pas. La culture est une...
Et oui, nous sommes donc en direct des Intercultes aujourd'hui, et ce week-end entièrement consacré à la culture, à l'expression de nos différentes écoles. Mais si vous redoutez déjà la tristesse du lundi matin et la retombée de toute cette effervescence, ou bien même si vous aviez peur d'en manquer, soyez rassurés, car voilà encore un peu de quoi vous occuper.
Alors on commence avec une exposition d'art contemporain à Villeurbanne, Marie.
Oui, puisqu'à côté de son grand frère, le MAC de Lyon, se trouve le non moins passionnant IAC, Institut d'Art Contemporain de Villeurbanne, qui accueille depuis jeudi dernier une exposition monographique d'envergure consacrée à l'artiste Anne-Véronica Janssen. L'artiste travaille depuis longtemps déjà en collaboration avec l'IAC et investit cette fois l'ensemble des espaces de l'institution. Elle poursuit dans cette exposition intitulée Mars son travail et ses recherches liées à l'expérience de l'espace et des phénomènes physiques, en particulier ici la lumière. Alors de salle en salle, nos sens sont donc sollicités et nos repères habituels déroutés par des expériences visuelles ou immersives. Et le parcours s'organise comme une spirale où on découvre des correspondances de salle en salle, salles qui sont tantôt baignées par une pluie de brouillard. On évolue également sur un sol recouvert de paillettes ou bien ébloui tout d'un coup, ou bien placé dans l'obscurité. Le spectateur est tour à tour amené à évoluer autour des œuvres, à comprendre les phénomènes optiques dont il est le témoin. Et l'œuvre brouillard nous plonge par exemple dans un espace entièrement rempli de brouillard, justement. Alors pour ne pas spoiler, je ne vous en dirai pas plus, mais c'est l'une des pièces majeures de l'exposition qui vaut presque à elle seule le détour.
Et c'est donc une exposition à découvrir jusqu'au 7 mai à l'Institut d'Art Contemporain de Villeurbanne. Toujours à Lyon, un événement littéraire majeur ce week-end, Marie.
Oui, alors, hasard malheureux du calendrier, puisque ce week-end est déjà bien chargé pour nous ici à l'ENS, mais il faut quand même rappeler que c'est en ce moment même qu'a lieu une énorme averse et aussi le festival Quai du Polar, dont on vous parlait déjà dans un précédent journal radiophonique amplifié, il y a quelques semaines. Alors, si vous voulez vous éclipser un moment, cela se passe un peu partout dans la ville, de la place de la Bourse jusqu'à l'Opéra en passant par plusieurs théâtres. Lyon se met aux couleurs du polar international et met à l'honneur ce genre et ses auteurs encore souvent considérés comme marginaux. Ici, on est bien loin de ces clichés, comme le précise le site internet du festival. Pas de traces de détective en imperméable, mais une vraie ouverture sur le monde contemporain, international, politique et métissé. Le polar actuel nous parle du monde d'aujourd'hui et avec brio. Alors que vous soyez déjà un fervent défenseur de la cause, un habitué un peu timide ou même encore sceptique, vous avez tout à gagner à aller faire un tour au festival pour rencontrer des auteurs et des lecteurs, tous convaincus et convaincants. Il y a énormément de rencontres et de conférences qui sont programmées. Ça passe de l'influence d'Agatha Christie en passant par le roman noir à Los Angeles, des masterclass, des ateliers d'écriture, même des concerts en soirée. Donc la programmation reste d'année en année aussi riche et exigeante. Je vous conseille vivement d'aller jeter un œil au site internet.
Et donc c'est tous les week-ends jusqu'à demain soir, dimanche 2 avril. Alors si la culture s'est invitée cette semaine dans les plusieurs journaux nationaux pour venir bousculer un peu les candidats à la présidentielle, c'est d'économie dont il est également question ces jours-ci.
Alors en effet, Raph, une fois n'est pas coutume, je vais parler un petit peu d'économie aujourd'hui et m'aventurer en toute modestie sur le terrain, ce terrain plutôt inconnu pour moi, qui est plutôt le terrain de Robin ici, et cette fois-ci du côté du privé. Puisqu'on n'y échappe plus, et certains noms nous semblent désormais incontournables. Par exemple, si je vous dis Mathieu Pigas, vous me dites...
Homme d'affaires, gros sous, le monde.
Nova.
Voilà, exactement. Rancocène, Céline, dans le public, a la bonne réponse. Puisque Mathieu Pigas, c'est un petit peu tout ça à la fois, on a envie de dire. Directeur général de la banque Lazare. Il est surtout connu donc pour être le président des nouvelles éditions indépendantes. Alors ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant derrière ce titre un peu obscur, on trouve plusieurs organes de presse comme Le Monde, on l'a dit, le Huffington Post, mais aussi Les Un Rock ou Radio Nova. Alors pour citer Wikipédia, les nouvelles éditions indépendantes et la holding créée par Mathieu Pigasse pour regrouper l'ensemble de ses participations de presse.
Mais on le sait ça depuis longtemps, non ? Pourquoi Mathieu Pigasse fait encore la une ?
Bien, parce qu'on a appris cette semaine que l'homme d'affaires rachète le festival Rock en Seine, qui a lieu tous les ans fin août, un des principaux festivals en termes de fréquentation, afin de marquer le point de départ du développement d'une nouvelle branche de cette fameuse holding, qui s'appellera donc les nouvelles éditions indépendantes live, et qui regroupera également le festival des Un Rock et celui de Nova, les Nuits Zébrées. Alors, Le Monde nous précise que Mathieu Pigasse est passionné de rock, alors nous voilà rassurés. Bon, bien sûr, je ne veux pas être trop critique, il ne s'agit pas non plus de dénoncer absolument et définitivement les apports de l'argent privé, puisque de toute façon, ils sont devenus essentiels et difficilement contournables. Mais il est utopique de croire encore à un secteur culturel complètement vierge de tout argent privé. Mais alors que la culture est dénoncée comme la grande absente en ce moment des débats présidentiels, au lieu de se réjouir un petit peu vite de ces nouveaux financements, on peut peut-être rêver aujourd'hui, 1er avril, que nos services publics ne laissent pas totalement le soin aux banques de changer le monde, pour citer une dernière fois Mathieu Pigasse. Et pour terminer et se changer un peu les idées, on va quand même continuer à sortir et à soutenir les créations avec plusieurs programmations théâtrales de taille dont Raph va vous parler tout de suite.
Et oui, nous allons maintenant parler du Festival d'Avignon In, nuage merveilleux, nuage. C'est avec ces mots qu'Olivier Py ouvre le 71e Festival d'Avignon In. Donc la programmation a été dévoilée le 22 mars dernier dans une conférence de presse. Le festival s'affirme une nouvelle fois avec sa programmation pluridisciplinaire entre le théâtre, la danse, la musique ou même l'indiscipline comme un des grands rendez-vous mondiaux du théâtre. Alors nous aurons entre autres grandes réjouissances le bonheur de découvrir Satoshi Miyagi, metteur en scène japonais qui s'était illustré par la fosse de son Mahabata dans la carrière de Boulbon il y a 3 ans. Également, point important cette année avec le focus sur l'Afrique, avec des spectacles de danse en grande majorité et de musique, ce qui a fait par ailleurs jaser quelques auteurs et metteurs en scène africains comme Dieudonné Nyanguna. On retrouvera entre autres Serge Aimé Koulibaly. Une grande place est donnée également au jeune public avec plusieurs spectacles et notamment Tristesse et joie de la vie des girafes de Tiano Rodriguez. On retrouve aussi Christiane Taubira qui va chaque jour organiser des lectures au Jardin Cessano, rendez-vous quotidien gratuit dans le festival, lecture qu'elle agrémentera chaque jour de ses réflexions, un parcours politique et poétique qui promet grandement. On retrouve également Simon Stone avec un nouveau spectacle d'après une pièce d'Ibsen. À noter que vous pouvez découvrir au Célestin son travail d'adaptation autour de Rocco et ses frères très prochainement. Olivier Py, enfin, quant à lui, fera une adaptation de son roman Les Parisiens, sorti à la rentrée littéraire 2016. Quelques poids lourds du théâtre seront également à l'honneur. Franck Castorf ainsi que Rezzo Gabriazzi, marionnettiste de légende. À noter également la présence de Carolina Nguyen, dont nous avions pu découvrir l'année dernière au théâtre de la Croix-Rousse le spectacle Le Chagrin, et qui cette année crée Saigon autour des relations entre la France et la guerre du Vietnam. Nous n'en parlerons pas plus. Il est important de se rendre à ce festival parce qu'en ces temps de troubles, où même nos hommes d'État trahissent à leurs engagements, morts de valse, entre autres, la culture est là pour nous rappeler la décence et la force du renouveau démocratique.